ça ?
Oui,
voilà, bon, mais ça s'appelle, ça s'appelle un hôpital où, paraît-il, on va plus maltraiter les parents. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus faire comme la méchante Madame Manoni qui disait l'enfant arriérait sa mère. Il faut que les parents, on les traite bien. Hein. Bon. On a le droit de tuer le sujet, de faire disparaître le sujet, de détruire le sujet, mais il faut pas qu'il y ait de cadavre. La question, c'est faire disparaître les obscénités. Pas de charnier. Voilà. Tout est permis dans notre civilisation, hein, mais on veut plus. Hiroshima, ça fait un peu désordre, hein, et Auschwitz, ça fait un peu dégueulasse quand même. Il y a des mecs qui sont venus filmer ça. Bon, ils auraient peut-être pas dû, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de cadavre, personne ne s'en aperçoit, puisqu'il n'y a plus de psychanalyse non plus. Il n'y a personne pour vous dire que la psychanalyse, elle est déjà morte. Bon. Donc, personne ne s'en aperçoit. Donc la question, elle est, qu'est-ce que c'est l'efficace de cette histoire d'objet qu'on retrouve dans l'autre ? Je vous dis, réfléchissez. Une version nourrice de l'anorexie, c'est de dire, l'enfant, il a perdu l'objet. Ah oui, c'est l'objet perdu, voilà. Il a perdu l'objet. Alors, et il ne le retrouvera jamais. C'est comme les gens qui vous disent, la psychose, on ne peut pas la traiter, il n'y a pas de transfert. Que des bêtises, que des lieux communs, des histoires de... Ils n'ont pas lu Lacan, c'est pas Lacan qui dit ça, ils n'écoutent pas Lacan, ils sont allés au séminaire, ils s'en foutent. Lacan, il a écrit des trucs, ils s'en foutent. Tout le monde s'en fout. On raconte les bobards qu'on a entendus au café du coin près de son analyste. Hein. Il y a autant d'associations de psychanalystes que de cafés près de chez Lacan, dans la rue de Lille. Hein. Il y avait une grande gueule par café, et quand vous attendez votre séance, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez au café. Alors ensuite, vous vous retrouvez membre de l'association le coup lacanien, l'espace analytique ou psychanalytique ou je ne sais pas comment. Pourquoi ? Parce que vous êtes tombé dans le café du coin où il y avait cette grande gueule-là, bon, qui a plus de talent que les autres, et puis voilà, l'engeant. Bon. Alors, ça fait pas un discours analytique qui va durer longtemps, ça. C'est ce qui se passe maintenant, ça se détruit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'objet du sevrage ? C'est, vous voyez, je suis révolté par le type qui parle de la résilience, comme si taper sur la gueule d'un môme, ça, ou il crève, ou il surmonte et il fait quelque chose de bien. Vous voyez, c'est un principe éducatif vachement bien, j'adore. La résilience, c'est vrai en éthologie. Peut-être même nous sommes sujets à la résilience organiquement. Hein. C'est pour ça qu'on faisait des saignées, je crois, aussi, en médecine. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui nous occupe dans la psychanalyse. Il s'agit du sujet du langage. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet objet ? Cet objet perdu, hein, où est-ce qu'il est, cet objet perdu ? Eh bien, c'est la bobine du Forda, l'objet perdu. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette couleur rouge ? C'est le fil qui relie cette zone à cet objet. Hein. C'est quoi Lacan ? Lisez-le dans le séminaire sur les quatre concepts, vous allez voir, il le dit bien. L'enfant, il n'est pas en train de faire une pratique de Jivaro en ayant transformé sa mère, en la réduisant en réducteur de tête. Là. Il a fait la mère, il l'a transformée en petite bobine, et puis il fait partir maman, il fait ramener maman. Mais ce n'est pas ça du tout. La maman, elle est du côté du disque vert, ici. Vous voyez ? Et la bobine, elle est là pour l'enfant qui est de ce côté-là. C'est quoi la bobine ? La bobine, justement, c'est un objet qui fait parler lui-même. C'est pour ça que Lacan parle dans Position de l'inconscient, à propos de la séparation, de la lamelle, de l'omelette, de ce qu'on perd à la naissance, le placenta. Vous voyez ? Et donc, essayez de bien faire rentrer ça dans vos catégories. L'objet, c'est pas parce qu'il est perdu, c'est pas parce qu'il s'en va, que ce soit la mère ou la bobine. C'est ce que ne veut pas l'enfant, c'est que cet objet, ce soit plus le sien. C'est même pas qu'il revienne, c'est qu'il reste lié à l'objet. Donc la schise, elle n'est pas entre l'enfant et le sein dans le sevrage. C'est pas ça la cause de l'anorexie. Hein. De la même manière, c'est pas en demandant l'aisselle, il y a une schise entre l'enfant et l'aisselle. Bon, c'est pas l'aisselle, l'enfant dans la névrose obsessionnelle, hein, qui vous écrase toute la gueule, parce qu'on est tous complètement aplatis par la fonction anale avec cette histoire de don, de valeur qu'on donnerait. Lisez le texte magnifique de Freud sur la déformation, le trib, la torsion, le fait de torsader, de tourner, de tordre la fonction anale, n'est-ce pas, pour faire de la valeur. Tout ça, c'est magnifique. Mais notez bien que ces objets qui sont sécables, même le phallus, le petit Hansidi, on peut dévisser la baignoire, on peut dévisser le robinet de la baignoire. Il va venir, vous voyez la castration, il va venir le plombier, il va dévisser la baignoire. Il faut que ça se coupe, il faut que ça se sépare. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut aussi ? C'est que ça reste lié au sujet. voyez. C'est-à-dire que, comme le dit très bien Lacan, hein, l'exemple qu'il nous donne, c'est lisez saint Augustin. Lisez saint Augustin qui décrit l'enfant qui assiste à la tétée, au nourrissage de son plus jeune frère. On lui donne le sein de la mère, mais Lacan il dit, les seins c'est des phanères, les plantes phanérogames dont il parle à la fin de l'année, vous savez, dans le texte, la postface de ce séminaire, il parle des plantes phanérogames. Hein, quand il se demande si les hirondelles lisent l'augure du printemps, bon, il se moque de nous. Mais il sait très bien que ça n'intéresse personne, ça n'a intéressé personne. Lacan, on l'a laissé parler tout seul. C'est pour ça qu'il s'est engagé dans la psychanalyse Lacan. Il s'est aperçu que, là, contrairement à la psychiatrie où Henriet et ses internes lui répondaient, hein, et ne voulaient rien entendre de ce qu'il disait, mais enfin chercher à l'écarter, il s'est dit, dans la psychanalyse, il s'est aperçu qu'on peut parler de tout et de n'importe quoi, tout le monde s'en fout. C'est grâce à ça qu'on a, 27 ans de séminaire, c'est génial. Bon. Mais maintenant, moi, je pose la question, est-ce qu'on continue comme ça? Parce que c'était très bien pour produire du Lacan, mais pour produire du monsieur machin ou du monsieur truc qui sont vraiment dans la niaiserie la plus totale, non. Je vous pose la question. Ça serait intéressant de se poser la question de commencer à apprendre à lire. Et donc, je vous dis que cet objet, hein, l'enfant qui est jaloux, pris d'une jalousie terrible devant son petit frère qui est au sein, c'est parce que le sein, c'est une partie de son corps, c'est comme le placenta. C'est comme cet objet. Et pour l'autre, c'est pareil. Je retrouve à l'intérieur de moi, qu'est-ce que c'est que le père qui rêve, il retrouve quelque chose de ce qui se passe dans la chaise d'à côté, hein, et qui fait partie de son manque à lui. Il rêve, son désir, c'est que l'enfant soit encore vivant, vienne lui parler, mais il y a aussi, ça c'est le rêve, mais il y a aussi dans son rêve, il y a une partie de lui qui est ailleurs, et qui continue à lui appartenir, et il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est ici, dans le rêve. Qu'est-ce que c'est que ça? Lacan, il nous dit, c'est le Vorstellung représentant. Ça, la présence de l'extérieur à l'intérieur du rêve, c'est le Vorstellung représentant. C'est ce qui fait que le sujet peut se dire, même en continuant à rêver, je rêve, ou peut-être que je rêve pas, ou est-ce que c'est un rêve, vous voyez? Il y a des commentaires. Il y a toujours une fonction de métalangage, sans que ce soit rigide, c'est pas un métalangage fixe. Bon. Et puis, qu'est-ce que c'est que dans l'autre, le monde du sujet qui vient apparaître dans l'autre, dans le monde de l'autre, qu'est-ce que c'est? Ben ça, mes amis, vous ne vous rendez pas compte, mais ça s'appelle le réel. C'est pour ça que Lacan, il dit, la répétition, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre du réel. Je vous ai déjà dit, hein, la rencontre du réel. Salut, le réel. C'est vachement bien, le réel. Les mecs, les psys, ils vous disent ça. Ils ont lu le séminaire. Ceux qui ont encore lu le séminaire 11, ils vous disent, la répétition, mais moi, je sais ce que c'est la rencontre du réel. Mais qu'est-ce que c'est la rencontre du réel? La rencontre du réel, c'est que vous voyez que dans cette répétition, il y a quelque chose qui se passe, c'est que ce que produit le texte du rêve, il produit quelque chose dans la réalité. Et ce que produit dans la réalité le texte du rêve, c'est justement le désir, c'est quelque chose qui a à voir avec le désir, c'est l'impossible à écrire. Mais ça se continue jusque dans toute notre activité pulsionnelle qui continue jusque dans la science. Hein. Et donc, et grâce aux grands savants, qui ne sont pas simplement des employés comme ceux du CNRS, mais qui sont les passionnés, les gens qui ont Pasteur, voyez-vous, Cantor, Meyer, c'est Lacan, je ne sais pas moi, Einstein. C'est la science, c'est le fait d'une passion et d'un désir. Popper, il peut mettre ça de côté en disant c'est de la psychologie du savant, hein, parce qu'il cite Einstein à ce moment-là, Popper, dans son introduction, hein, à la logique de la recherche scientifique. Non, le problème c'est que cette passion elle tourne autour de quelque chose qui va être impossible à écrire et qui peut être extrêmement destructeur, ce qui donne raison à l'écologie, mais c'est très très faible l'écologie, c'est une plaisanterie à côté de ce que dit la psychanalyse. La psychanalyse elle dit que nous, par notre activité, hein, par nos actes, du fait de nos textes écrits, comme dit Bachelard, les instruments scientifiques, l'électricité, cette caméra, Tous ces trucs, ce sont des textes réalisés. Les lèmes qui viennent se poser sur la Lune, c'est des textes réalisés. Et ces textes, ils comportent quelque chose d'impossible à écrire. Ils servent, comme la formule de Newton, comme la formule du fantasme. Hein. Une psychanalyse, elle se distingue pas de l'épistémologie qu'il faut construire pour notre époque. Et peut-être que justement, faire son analyse, ce serait aussi arriver à faire ce lien entre notre analyse et notre situation disons, de sujet singulier, avec ces problèmes discursifs au travers de la question de la psychose, ces problèmes discursifs qui font que nous avons comme consommateurs, pas seulement comme employés, mais comme consommateurs, une responsabilité. On ne peut pas faire la belle âme, on ne peut pas dire « Ah bon, Einstein, il disait, moi, je ne veux pas qu'on fasse la bombe avec ma création, avec ma relativité, avec ce que j'ai fait, avec mon œuvre. » Bon, c'est déjà la responsabilité du savant. Oppenheimer, du coup, va se poser la question, c'est le premier sur la responsabilité du savant, il va se poser la question de qu'est-ce que c'est que le désir du savant, hein. Ça, c'est dans science et bon sens. Bon. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Lacan quand Lacan nous dit ça? Ça veut dire que Oppenheimer, il se rend compte que mécanique quantique et mécanique ondulatoire, c'est deux choses qui sont en intersection comme ça, hein, et qu'il y a des choses de la mécanique quantique qui ne peuvent pas être dites en mécanique ondulatoire, et des choses de la mécanique ondulatoire qui ne peuvent pas être en mécanique quantique, et qu'il y a quelque chose de commun. Nous sommes rentrés dans l'époque avec Heisenberg, et pas seulement avec Gödel, mais avec Gödel aussi, dans l'époque des théories scientifiques incomplètes. Et à part, je vous dis, le calcul de Boole, qui est mécanisable, toutes les théories faites dans le langage mathématique même sont incomplètes et comportent un désir et un réel. Ça a la structure du fantasme. La formule de Newton, les théologiens lui demandaient comment est-ce qu'elle savait les particules qu'elles sont à telle distance les unes des autres et que l'autre à telle masse. Hein, puisque la formule de Newton, vous savez, elle s'écrit comme ça, hein, mm prime sur d2. Ça, c'est la force F. Hein, et c'est, en plus, il faut mettre un vecteur ici, accélération, c'est un vecteur de gravitation. Et ça dépend comment les particules, elles savent quelle est la masse de celle qui l'attire et qu'elle attire elle-même, et quelle est la distance qui les sépare pour que le bon. Il est évident que Newton, il dit. Il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas d'observation phénoménale, jamais aucun empirisme. C'est exactement la même chose que ce que dit Trouvé-Schoig du phonème. Vous ne pourrez jamais définir le phonème d'une manière empirique et d'une manière phénoménale. Vous ne pourrez jamais découvrir le champ de gravitation. Vous voyez, Einstein, il disait, à propos de la mécanique ondulatoire, je ne supporte pas l'idée que Dieu joue au dé avec nous. Bon, là, Lacan, il dit, bon, il tombe dans la religion la plus ringarde possible. Bon. Mais vous voyez que cette histoire de répétition, elle a une importance cruciale pour arriver à distinguer entre l'objet de la séparation qui serait simplement le sevral et l'objet qui est perdu, mais qui est une partie du sujet et qui est beaucoup plus importante, cet aspect de l'objet, cet aspect de l'objet perdu, il est aussi l'objet qui coupe, mais en même temps il est l'objet coupé. Vous voyez. Et moi j'ai entendu des gens très savant, se moquer de ça ou en dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça moi j'ai entendu quelqu'un qui disait, par exemple, dans le fantasme, le sujet est coupé par l'objet, et l'objet est coupé par le sujet, et l'objet disparaît, et le sujet disparaît, et alors. Ah, mais j'ai entendu ça dans des séminaires de psychanalyse, hein, en 83, 84, vous voyez, moi je suis parti. Je suis parti où? Dans mon quartier. Je suis allé travailler dans mon quartier avec les gens qui m'aimaient bien, comme on dit, hein, parce que moi, je ne vais pas aller leur expliquer que, et alors, ils pourraient au moins se dire, bon, bah, je ne comprends pas cette histoire de ce que raconte Lacan à propos de la structure du fantasme. Vous voyez, mais le problème, il est que cette structure du fantasme, elle vous permet de voir que l'efficace, n'est-ce pas, dans l'analyse, qu'il faut arriver à entendre, hein, pour soutenir le sujet dans son interrogation à ce propos, parce qu'il il s'interroge malgré vous et malgré lui à ce lien qu'il a avec l'objet, qui est que même si l'objet est perdu, même si l'objet est détaché, même si l'objet est parti, même si la mêle, ça revient dans les cauchemars. Parce que finalement, il faut dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment Freud, dans l'au-delà du principe du plaisir, introduit la répétition? C'est à propos de la réfutation au sens de Popper de sa théorie du rêve. Le désir et le désir, c'est le rêve et la réalisation d'un désir. Bon, le désir, c'est pas le plaisir, mais le rêve, il est dominé par le principe du plaisir. Vous voyez, qu'est-ce que je suis en train petit à petit introduire? C'est cette différence à propos du principe du plaisir et du désir. Mais le principe du plaisir baisse de tension. D'accord? Ça, le désir fait pas forcément plaisir, mais il faut aller plus loin, il faut expliquer vraiment quelle est la relation du désir, pour que le rêve, qui est la réalisation d'un désir, devienne un cauchemar, empêche de dormir. Ça va plus loin que simplement le fait que ce serait un mauvais rêve, ou un mauvais plaisir ou un déplaisir. Le plaisir des plaisirs, c'est du côté du principe du plaisir, mais ça ne contredit pas le processus primaire. Voyez-vous, les choses qui se passent à l'extérieur, aux extrémités du schéma, coupent le processus primaire au milieu, et ce qui se passe dans l'intersection ici, également, c'est l'apparition de ces deux objets qui sont à l'intérieur de l'intersection. Hein? C'est ça la question qu'il faut bien voir. Je vous dis, ça concerne absolument la notion que vous vous faites de la structure du sujet et de l'objet. Ça engage l'objet et ça engage le sujet. Qu'est-ce que c'est que le sujet qui n'est pas un moi, le sujet qui est divisé, hein? Lacan va même en faire, vous voyez, de ce sujet le sujet divisant, puisqu'il va parler de la division du sujet, c'est-à-dire l'autre divisé par le sujet. Ça, c'est dans l'angoisse. Eh bien, c'est le seul moyen d'arriver à parler sérieusement de cet objet et de ce sujet. Et ça, ce n'est qu'un début. C'est une petite anecdote illustrative. Alors, pour conclure, je vous montre comment je fais pour mettre... La question qu'avec ce que je vous ai envoyé, si vous l'avez reçu, c'est qu'est-ce qui se passe entre ces schémas, ce passage au diagrammatique, là. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce passage au diagrammatique? Regardez. C'est que les couleurs... Voilà, je vous ai dit la semaine dernière, ce diagramme, c'est synchronique. Synchrone. Et ça, c'est la diachronie. C'est la diachronie. Je ne vais pas mettre ça à côté de là, hein, parce que vous allez tout confondre. Ça, c'est la diachronie. La diachronie, c'est les disques qui bougent, c'est le mouvement. Hein, c'est cette série-là. On peut faire rentrer toute cette série dans un seul schéma. Comment on fait? Comment j'ai fait? Voilà le raisonnement. Le raisonnement est suivant, je vais conclure là-dessus. Le raisonnement, c'est de dire, j'ai dit, vous avez ici une contrainte physique, le tiers du trou, n'est-ce pas? Le trou doit avoir un diamètre qui est le tiers du diamètre du grand. Mais il y a quelque chose de logique et de diagrammatique dans ce problème. Vous voyez bien que ce trou, il n'est pas... Le rapport de S et de A, S et A, ça, voilà, quand vous avez deux ronds, les diagrammes de Lerben, c'est la manière garantie d'obtenir toutes les distributions de zones. Quand vous avez trois ronds, hein, vous voyez, comme ça, hein, vous aurez toutes les distributions, vous avez huit zones, ça s'appelle des zones atomiques. Donc il y a combien de zones atomiques quand il y a deux ronds? Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 zones quand il y a deux ronds. Il y en a 8 quand il y a trois ronds. C'est toujours 2 puissance n, le nombre de zones atomiques pour le nombre de ronds n. Bon. Donc moi je me suis dit, là, qu'est-ce qui se passe là? Les zones, il y a le nombre de zones qui changent. Vous voyez, ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 avec l'extérieur. Ici il y en a 1, 2, 3, 4. C'est la même là, l'intersection. 5, 6 aussi. Et là il y en a 3. Bon. Et bien je me suis dit, comment arriver à rendre compte de ça dans un seul dessin? D'abord, il faut partir du diagramme de 4 ronds. Combien il y a de ronds ici? C'est pas seulement que la mesure du trou central soit le tiers du disque, c'est qu'il y a ici, il y a 4 ronds. Donc je prends un diagramme de 4 ronds. Et ce diagramme de 4 ronds, ensuite, je l'ai un peu modifié comme ça pour arriver finalement à celui-là. Bon. Mais ce diagramme de 4 ronds, j'aurais pu prendre celui-là, ce que je vous ai mis au tableau la dernière fois. Je peux prendre celui-là. Aussi. Vous voyez, là j'ai 4 ronds. Hein, j'ai S, j'ai A, j'ai petit a et j'ai petit a prime. Bon. Prenez un diagramme de Lerben, quelle que soit la présentation du diagramme. Prenons la plus moche, celle-là. Qu'est-ce que c'est que les hachures? Les hachures, c'est déjà la première fonction modale de la vérité. C'est quelque chose qui s'impose comme structure. C'est comme, dans cet exercice, c'est comme la face valide. En plus du fait, c'est pas une question de mesure, vous voyez bien que le rond A doit être concentrique à S, il est inclus dans S. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce dessin qui serait dans le diagramme? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce dessin de S et de A qu'il n'y a pas dans le diagramme entre S et A? Eh bien, il n'y a pas ça, vous voyez? Parce que A, il est dedans. Donc, je mets des hachures pour faire apparaître des contraintes logiques, n'est-ce pas? Qui sont des contraintes, justement, je dirais, définitoire du problème. Le problème ne va fonctionner que si A est un trou concentrique avec le disque et A' un trou concentrique avec grand A. Bon, alors est-ce que vous voyez que là j'ai assuré dans le rapport SA, j'ai assuré toutes les parties de A qui sont en dehors de S. Et dans le rapport A prime grand A, j'ai assuré toutes les autres qui sont en dehors de A prime, en dehors de A qui sont dans A prime. Si vous ne le voyez pas, je vais vous les dessiner autrement. Regardez maintenant. Je vais vous les dessiner pour que vous les voyez un peu mieux. Tenez. Voyez, il y a. Voilà comment sont disposés S et A. Ils sont disposés comme ça, S et A, dans mon diagramme de Herbel. Ça, c'est S et ça, c'est A. Et dans mon diagramme de Herbel, tel qu'il les a choisis, A est comme ça et A' est comme ça. Bon. Eh bien, qu'est-ce que j'ai assuré ici? Vous ferez l'expérience chez vous, vous vérifierez sur le dessin. J'ai assuré ça pour que A soit strictement contenu à l'intérieur de S, et j'ai assuré ça pour que A' soit à l'intérieur de A. Voyez. Et ensuite, en déformant cet objet qui est purement formel au début, qui est un diagramme, qui est une écriture, hein, je me suis rapproché d'une sorte de présentation de quelque chose qui pourrait un peu représenter mes disques troués par déformation du point de capiton. C'est ça la fonction du point de capiton. Cette partie assurée, voyez-vous, hein, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai assuré les deux, je mets ça ensemble. Il y a une zone qui est commune d'ailleurs, c'est celle-là, aux deux assures. Hein. Peu importe, je m'aperçois que tout ça rentre dans un cercle. Tout ça rentre dans un cercle, donc je le dessine comme un cercle. Et si je numérote les points, je vois que j'ai un trait là, le trait S, il va de 2 jusqu'à 6. Bon, ben, je suis bête, hein. Je vais aller de 2 jusqu'à 6. Bon. Et puis, le rond A, il va d'où à où, le rond A? Le rond grand A, il va de 4 à 8. Parce que j'ai isolé le bord, je vais vous le mettre en rouge, ou en vert, ou en bleu. J'ai isolé le bord de ce poinçon, de ces zones assurées qui sont, ça c'est vachement amusant, ça c'est le point de capiton, vous voyez. C'est-à-dire que, vous voyez, je me trompe là, c'est ici que se trouve le bleu, voilà, vous avez un cercle bleu, ce cercle maintenant il faut le transformer en cercle, bon ben je le mets en cercle, et je vais pouvoir faire fonctionner comme un poinçon, hein, je suis déjà dans la logique du fantasme, je vais faire fonctionner la forme de ce rond, de cette zone, qui est entourée de bleu, je la mets comme ça, ronde, et puis ici, je l'ai réduite encore plus, vous voyez. Par rapport à ce dessin, ou à celui qui est là-bas, j'ai regroupé 4, 5 et 6, j'ai regroupé 2 et 3, 8 et 7, c'est continu, il reste dans le même ordre sur le bord du rond. Hein. Et 1, j'ai amené en 1, qu'est-ce que j'ai amené en 1 où rien n'arrive? Qu'est-ce que j'ai mis en 1? Tiens, c'est bizarre. 1, il est quoi? Pourquoi il serait le quatrième, hein? Ah, ici, il est 4. Ah, 1, il est séparé des deux autres. Oui. C'est que ici, j'ai mis 1. Ah, ben, là aussi, 1, il est, voilà. 1, il reste en dehors du coup. Et là, pourquoi j'ai fait venir? Ah, ben, j'ai déplacé des choses. Oui, j'ai déplacé des choses, vous voyez. Tiens, il faut regarder qu'est-ce que c'est que ce 1 qui est là, parce qu'il y a deux ronds qui viennent en 1. Ah, ah. Les ronds, ils viennent pas en 1. Les ronds, ils viennent en 8. Bon, alors je le laisse comme ça pour l'instant. Mais il y a un petit problème là. Mais il y a un petit problème qui va intéresser la suite, parce que vous voyez, ici on voit. Ah ben. Ah oui, 2 et 8 sont en 1. Et qu'est-ce que c'est que 3 et 7? 3 et 7, c'est pas 3 et 2. 2 vient ici. 2 va ici avec 8. Et ça, c'est le 3 qui est là. Ici, j'ai 1, 2, 3.
Ah, hein. Ça, c'est 3 et 4.
Ça, c'est 3 et 4.
Ouais.
Et ça, c'est seulement 5, alors? Mais non, parce que regardez, 4 il vient. 4 et 6, il vient en 5 aussi. Bon, enfin, il faut faire le compte. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous conservez l'ordre des points et leurs numéros, hein, dans l'ordre, vous pouvez les faire glisser comme vous voulez au bord du disque du poinçon, du point de capiton, Et vous pouvez obtenir cette figure ou une autre, hein, vous pouvez en obtenir autant que vous voulez. Et ce que je veux dire, c'est que même, regardez, si vous le remplacez par un point, vous voyez bien que c'est toutes ces figures, si c'est un seul point, hein, vous allez avoir quelque chose qui va être comme ça, hein, et quelque chose qui va être comme ça. Vous voyez ? Et là, vous commencez à voir apparaître le 8 intérieur de Lacan. C'est deux 8 intérieurs qui se superposent. Qu'est-ce que j'appelle le 8 intérieur ? C'est quelque chose qui est comme ça. Le 8 intérieur, avant de devenir, c'est de là que va sortir le 8 intérieur du bord de la bande de Möbius. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est le phallus, nous dit Lacan. Parce que ce 8 intérieur, il vient de quoi ? De la rétraction de la partie du dire qui, elle, c'est celle qu'on oublie. Pourquoi ? Parce qu'elle est nécessaire dans la définition même de la situation de A par rapport à S et de A'. Voilà. Ça a une fonction de nécessité, ça a une fonction d'axiome, ça a une fonction d'énonciation. Ça a une fonction de vérité nécessaire. Vous voyez ? Alors qu'ensuite, le mouvement, les hachures qu'on va rajouter dans le mouvement, alors ici, dans ce cas-là, vous voyez, les hachures du mouvement, elles apparaissent là. Voilà. Cette zone de l'intersection de S et A, et de A et de A', n'existe pas dans ce cas-là. Il n'y a pas d'intersection. Dans ce cas-là, il y a l'intersection qui apparaît ici, mais c'est ça qui n'a pas. Il n'y a pas d'intersection entre A et A'. Vous voyez ? Dans ce cas-là, ici, on voit apparaître cette zone et celle-là. Il n'y a pas d'intersection de A et A'. Il y a cette zone, celle-là, et ça a disparu. Voilà, c'est ça qui a disparu. C'est les trous qui sont là, qui disparaissent ici, vous voyez ? Et là, vous pouvez dans tous les cas mettre des couleurs. Regardez, vous avez du vert ici, vous avez du rouge là. Bon, ici vous avez du rouge ici, du vert ici, du vert ici, et vous avez du bleu là. D'accord ? Là vous avez du bleu, vous avez du rouge ici, et du vert là. Je vous dis que la synchronite dans ce problème contient la diachronie. Et qu'est-ce que c'est que la dernière figure ? La dernière figure, il y a le trou qui est blanc ici. Ici, c'est hachuré, il n'y a plus cette partie là non plus. Il n'y a plus cette partie là, il n'y a plus de rouge ni de vert. Hein. Qu'est-ce qui reste ici ? Il reste que le disque bleu, il est là. Le disque bleu est là. Ça, c'est le trou à A' superposé, et ça, c'est l'extérieur. Donc vous voyez bien que ces quatre figures qui sont toutes contenues dans une déformation de celle-là, ben ça c'est une technique, je ne sais pas si c'est une technique, c'est une pratique. C'est-à-dire, comment, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de topologique là-dedans ? C'est que vous pouvez déformer les choses à souhait si vous conservez des relations d'ordre. C'est ça la topologie. C'est la science de l'ordre et pas de la mesure. Les mesures peuvent être complètement souples, subvertis, vous pouvez rapprocher des choses, les éloigner, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de conserver l'ordre. Si vous conservez l'ordre des éléments, hein, eh bien, vous avez quand même un discours construit, structuré, ça s'appelle la topologie. Donc, j'arrête. On reprendra ça en janvier. J'espère que j'aurai avancé, je vous raconterai encore d'autres choses en janvier. Voilà. Alors, vous pouvez donner une contribution pour l'allocation de la salle à Pascal qui est là ou à Élie qui est là, parce que moi je pourrais pas faire la mission de transmettre ça au trésorier parce que je serai plus là demain. Je vous dis alors à bientôt.